Je voudrais vous parler ce matin des effets incroyables du jeûne. Non pas du jeune garçon ou de la jeune fille, mais les effets incroyables du jeûne et de la prière. Croyez qu'il y a des effets lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie ? Alléluia. Vous le croyez parce que vous l'avez vécu ? Vous le croyez parce que vous l'avez lu ? Vous le croyez parce que vous voulez le vivre encore ? Amen. Le jeûne biblique et par définition, un temps de resserrement spirituel. Et il y a beaucoup d'enjeux spirituels autour du jeûne. Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Il y a des bouleversements. Et on a véritablement une action, un effet, un impact dans le jeûne et dans la prière. Amen. L'impact est d'abord personnel. Lorsque l'on jeûne d'une manière personnelle. Et puis, nous pouvons le voir tout autour de nous, dans notre environnement, dans notre entourage. Le jeûne et la prière nous ouvrent le ciel. Le ciel est véritablement ouvert sur nos vies. Et puis, il nous donne la force nécessaire, nous allons le voir à travers trois cas ce matin, pour faire la volonté de Dieu, pour déjouer les plans du diable. Et il est capable également de déclencher le réveil, le retour à Dieu, déclencher un destin extraordinaire dans les mains de Dieu. Je ne parle pas bien sûr du jeûne religieux, du jeûne de façade, mais je parle du véritable jeûne. Le jeûne, c'est d'abord d'humilier son âme, de venir dans un temps de recherche de la face du Seigneur, de se courber vers le roi et de chercher à obtenir quelque chose de sa part. Une âme qui se courbe, qui se prosterne devant son Dieu et qui cherche vraiment sa face. Et il y a quelque chose de plus, nous pouvons dire, dans le jeûne, parce que c'est là où on peut être revêtu de sa puissance et de sa force. C'est un temps aussi avant tout de sanctification, un temps d'humiliation, un temps de revêtement divin. Le premier texte que je voudrais prendre avec vous, c'est dans Matthieu 17, mais ne le cherchez pas, on verra d'autres textes ensemble. Mais c'est juste pour donner l'importance du jeûne. Matthieu 17, versets 14 à 21, c'est lorsque certaines personnes amènent un démoniaque devant les disciples et les disciples n'arrivent pas à délivrer cette personne, n'arrive pas à délivrer ce jeûne. Et il est dit, c'est un père qui vient et dit, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Alors, Jésus va dire, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Il y a une dimension particulière dans le jeûne et dans la prière, et les exemples sont nombreux dans la Bible. Il y a des jeûnes plus ou moins longs, il y a des jeûnes plus ou moins stricts. Ce n'est pas que de se priver de nourriture, nous l'avons dit déjà, c'est une attitude de cœur. Vous avez le jeûne dans Daniel, où il se prive de mets succulents et gras. Mais on peut faire aujourd'hui plusieurs types de jeûnes, comme le jeûne de télé, le jeûne de portable, le jeûne d'ordinateur. C'est difficile de s'en séparer, hein. Difficile de ne pas être accaparé par ces choses. Il y a beaucoup de jeûnes, il y a des jeûnes personnels, des jeûnes collectifs, tout au long de la Bible. Mais on retiendra trois jeûnes ce matin qui ont produit quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Le premier se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel était un homme de prière et de jeûne. Ah oui, je regarde les diapositives, mais c'est à moi de faire tourner. Voilà, ça c'était l'introduction. J'aimerais vous parler avec Daniel de ce jeûne et prière qui décroche les paroles du ciel. Vous savez qu'il y a des paroles et des paroles cachées dans le ciel pour nous, paroles prophétiques, paroles de restauration, de guérison, de consolation, des paroles de Dieu, des paroles du ciel. Elles sont écrites dans sa parole, mais à travers le jeûne et prière, nous pouvons les décrocher pour nous. C'est formidable ça. Nous pouvons décrocher les paroles du ciel. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel chapitre 9, verset 2, il est dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Au verset 20, il est dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et puis un petit peu plus loin, il est dit au chapitre 10 et au verset 2. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis de point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. » Au verset 12, il me dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. » C'est extraordinaire ce qui se passe pour Daniel dans le jeûne et dans la prière. Nous l'avons lu ensemble. « Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. » Et le premier point que nous pouvons souligner dans ce moment de prière avec Daniel, c'est qu'il humilie son âme au point qu'il rappelle les péchés qu'ont commis le peuple. Mais il ne fait pas que les rappeler, il se les approprie. Nous avons péché, nous avons commis, nous n'avons pas entendu tes prophètes, nous n'avons pas craint ta parole, nous. Pourtant, Daniel, c'est l'homme intègre par excellence. C'est l'homme qui va prendre la résolution de ne pas se souiller dès son jeune âge. Et dès son jeune âge, il est déporté à Babylone. Il n'y est absolument pour rien dans cette histoire. Mais au lieu de dire « Ils ont commis des fautes, ils ont péché, voilà où on en arrive. Seigneur, fais quelque chose parce que moi, je suis intègre. Moi, ceci, moi, cela. » Comme le pharisien et le publicain dans le Nouveau Testament. Eux, ils font des bêtises, eux, ils font n'importe quoi. Je suis dans une génération perverse. Mais moi, fais-moi grâce, parce que moi, je suis ta parole, parce que moi, je suis intègre. Même je jeûne. Non, c'est pas ça qu'il va faire. Il va dire, nous avons péché, nous avons fait n'importe quoi. Nous, les Français, nous faisons n'importe quoi aussi. Hein. Mais souvent, on dit, c'est les autres. Mais ça vous rappelle rien, cette attitude? Si ça ne marche pas, c'est un ensemble. C'est pas que la faute de 2 ou 3 individus. Mais c'est tout le peuple qui doit se repentir et qui doit chercher la face de Dieu. Moi, ça me fait penser à Jésus. Jésus s'est approprié notre péché. Lui qui n'était sans péché et qu'il aurait pu dire, eh bien, s'ils en sont là, c'est leur faute. Mais non, il s'est approprié notre nature et il a été jusqu'à mourir à la croix pour vaincre le péché. Alléluia. Et je crois que si on vient dans un temps de deuil, un temps de jeûne et de recueillement, on doit avoir cette attitude de prendre sur nous même la faute des autres. Dans ce cas-là, le Seigneur va décrocher les paroles du ciel. C'est merveilleux ça. J'aime beaucoup cette expression. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches la face du Seigneur, à cause de sa parole, parce que nous ne l'avons pas lu, mais au tout début il est dit, je voyais dans les livres, je voyais ce qu'il était dit sur le prophète Jérémie, que le prophète Jérémie disait, alors j'ai essayé de chercher à comprendre. Si vous cherchez à comprendre la parole de Dieu, que vous passez du temps dans la prière, le Seigneur va décrocher les paroles du ciel et va vous les faire comprendre. Amen. Il va même vous donner des visions, il va même vous donner des paroles de prophétie, des paroles de vie, des paroles de victoire. Alléluia. C'est ce qui se passe. Et Daniel, les prophéties de Daniel peuvent l'attester. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qu'a reçu Daniel. Un ange vient et lui dit, dès que tu as commencé, la parole est sortie, le ciel s'est ouvert. Dès que tu as commencé à prier, à chercher la face du Seigneur et à humilier ton âme, la parole est sortie. Je crois qu'après ce message, on va tous chercher à prier et à chercher la face du Seigneur en voyant les effets que ça produit. Amen. Moi, quand je regarde ces effets-là, j'ai envie de... Mais bien sûr, on est tiraillé par notre nature. Hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais on sait ce qu'il faut faire. Dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Deuxième point. La parole est sortie et Dieu a envoyé sa parole sur toi et t'a enseigné. Et en même temps, des paroles ont été entendues. On peut prier, mais si on fait n'importe quoi et si on prie, pardonnez-moi, un petit peu d'une manière religieuse ou non pas comme un cœur à cœur, non pas en humiliant son âme, en venant chercher la face de Dieu. Si on prie légèrement, si on prie comme cela, on a peu de chances d'être entendu de la part du Seigneur. Mais si on abandonne notre péché, si on vient avec un cœur repentant, nos paroles seront entendues. Amen. Tes paroles ont été entendues. Voilà ce que produit le jeûne. Le ciel s'ouvre, les paroles de Dieu deviennent accessibles. Des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Il y a aussi Pierre, lorsqu'il s'est mis à jeûner dans le Nouveau Testament, connaissez ce passage, et il était en extase et il a eu cette vision de la nappe et des animaux impurs. Tout simplement une grande vision qui lui montrait que l'évangile était accessible aux païens. Et ça s'est produit quand ? Ça s'est produit quand il a jeûné et quand il a prié. Amen. Jérémie chapitre 33 verset 3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Il y a de l'enjeu derrière cela. Il y a de l'enjeu. Parole, Dieu veut nous parler et Dieu veut nous diriger et Dieu veut nous conduire. Des révélations, des exaucements puissants, voilà ce que produit le jeûne. Un deuxième jeûne que je voudrais voir avec vous, deuxième effet, c'est le jeûne qui renverse les plans bibliques, les plans diaboliques, pardon. Les plans diaboliques. On trouve cela dans le livre d'Esther. Vous connaissez peut-être son histoire. À travers cette histoire, nous voyons que le jeûne qu'a fait Esther va lui donner la force d'agir. Contrairement à celui de Daniel, elle ne va pas recevoir le plan tout détaillé de ce qu'il va arriver, mais elle va recevoir, dans ce temps de prière, la force nécessaire pour agir. Elle était bloquée par la peur. Je rappelle un petit peu l'histoire. Esther est une orpheline. Et c'est la fille de l'oncle de Mardoché et par un concours de circonstances, elle va se retrouver première dame du royaume. reine auprès du roi Assuérus. Et la situation politique commence à changer. Et le numéro 2 du pays s'appelle désormais Aman. Et Aman décide que tout le pays, que tout le peuple se prosterne devant lui. Mais malheureusement, il y a un homme qui ne se prosterne pas devant lui, c'est Mardoché. Au lieu de se prosterner devant Aman, il préfère se prosterner devant Dieu. Au lieu d'obéir à cette loi, il préfère obéir à la loi de son Dieu. Et ça va attirer la fureur et la haine d'Aman. Et Aman va décider un plan diabolique pour détruire tout simplement la race juive. Nous le savons, ce n'est pas nouveau. Et dans l'histoire, il y a juste à regarder quelques pages de notre livre d'histoire pour se rappeler ce qui s'est passé. Et certains peut-être au milieu de nous l'ont vécu. Il y a toujours eu des hommes diaboliques, sataniques, qui, comme par hasard, ont voulu s'en prendre au peuple de Dieu, à la race juive et au peuple chrétien. Mais, heureusement, Dieu nous donne les moyens d'avoir la victoire. Amen. Donc, Aman décide ce plan diabolique et fait sceller ce plan, ses lettres, par un décret du roi irrévocable à l'époque. Alors, tout le peuple est ému, tout le peuple est dans la désolation, tout le peuple a peur. Mardoché le premier, et Mardoché va prendre le sac et la cendre, va s'humilier d'abord. Et puis au chapitre 4, nous le voyons déjà, au verset 3, il est dit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Je crois que ça a commencé là. Ça n'a même pas commencé par le jeûne d'Esther et le jeûne collectif dont elle va faire appel, mais ça a commencé là. Dès qu'on a eu la nouvelle, cette nouvelle horrible, cette nouvelle affreuse, eh bien le peuple s'est mis à jeûner et à prier. Voilà le bon réflexe. Amen. Tout autour de nous, et nous le disons souvent, la vie est difficile et parfois nous sommes victimes d'attaques sataniques et d'attaques diaboliques. Tout simplement parce que on ne plaît pas à l'ennemi de notre âme. Et ça peut se traduire au travail, ça peut se traduire dans notre entourage, dans notre voisinage, ça peut se traduire dans notre famille, ça peut se traduire dans plein d'exemples. Et vous en avez plein, j'en suis sûr. La solution sera toujours le jeûne et la prière. Dans un premier temps, Esther, prise par la peur, prise par l'enjeu peut-être, ne réalisant peut-être pas la situation, peut-être pensant qu'elle elle-même y échapperait, ne sachant que faire, elle va envoyer des vêtements à Mardoché. Mais Mardoché les refuse. Et Mardoché va lui faire dire qu'il faut qu'elle réagisse. Et que si elle ne réagit pas, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Alors, elle va réagir. Et elle va réagir comment ? Elle va réagir par le jeûne et par la prière. Elle va faire appel au peuple pour jeûner avec elle pendant 3 jours. Elle va jeûner pour avoir la force de demander au roi une grâce, de parler au roi. Et à cette époque-là, parler au roi, s'il ne nous avait pas invités, c'était un danger de mort même. Et ça faisait 3 semaines qu'elle n'avait pas été invitée auprès du roi. Mais là, il y avait urgence. Alors elle va d'abord passer 3 jours dans le jeûne et tout le peuple va jeûner avec elle. Et elle va avoir la force d'aller affronter le roi et de l'inviter à sa table et de parler et de régler cette situation. Ce qui est formidable dans cette situation, c'est qu'elle ne va pas tout dire tout de suite, mais on sent qu'après cette période de jeûne, on sent que Dieu contrôle tout et Dieu, d'une manière millimétrée, va séquencer les événements et c'est lui qui est à la manœuvre et c'est lui qui est au contrôle. Nous, parfois, on essaye par nos propres moyens de régler les situations, mais d'abord passons un temps dans le jeûne et dans la prière et croyons que Jésus, Dieu, va combattre pour nous et il va régler la situation tout seul. Et c'est ce qui va se passer. Comment déjouer un plan diabolique si ce n'est sans l'aide de Dieu ? C'est Dieu qui va le faire. C'est extraordinaire. Elle va demander donc de voir le roi. Le roi va lui tendre le sceptre d'or comme pour dire tu es la bienvenue. Et puis elle va l'inviter à un festin et il va lui dire demande-moi tout ce que tu voudras, même si c'est la moitié du royaume, je te le donnerai. Alors elle va lui demander de revenir à un festin pour lui expliquer ce qu'elle veut. Et cette nuit-là, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment... Mais ça, c'est à cause du jeûne et de la prière. Cette nuit-là, d'un côté, vous avez Aman qui rentre chez lui, qui était content parce qu'il avait été invité à la table de la reine, et qui discute avec sa femme, qui est heureux d'être honoré, d'être glorifié comme ça. Mais la seule chose qui l'énerve, qui l'agace, c'est que Mardoché ne se prosterne pas devant lui. Voilà, je rappelle qu'il faut éteindre les portables. Et à tel point qu'il imagine le faire pendre. Et donc il se dit, bon, ben, je vais le faire pendre comme ça, il n'y aura plus d'ombre au tableau. Et cette même nuit, de l'autre côté, le roi n'arrive pas à dormir. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Quand on n'a pas la force d'agir, c'est Dieu qui agit à notre place. Alléluia. Et il nous donne même la force d'agir après. Il n'arrive pas à dormir, alors il lit le livre des Chroniques et il se rappelle, en lisant ces chroniques, en lisant l'histoire, que Mardoché avait déjoué un plan contre le roi et il avait en quelque sorte sauvé le roi. Alors il se dit, mais on n'a rien fait pour Mardoché cette même nuit. Alors lorsque Aman revient, il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour honorer un homme? Et Aman croit que c'est pour lui. Il n'imagine même pas qu'il pense à son ennemi juré Mardoché. Et il lui dit, eh bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller dans la ville, etc. Et il lui dit, ah d'accord, alors fais cela pour Mardoché, parce qu'il a fait cela un temps, il a fait ceci, il a fait cela, il a sauvé le roi, il m'a sauvé, donc fais ceci pour Mardoché. Imaginez un petit peu la tête d'Aman. Le plan diabolique se retourne déjà contre lui. Et les personnes qui lui sont proches vont lui faire remarquer d'ailleurs. Ils vont lui dire, mais si ça commence comme ça, méfie-toi, parce qu'il y a quelque chose de puissant derrière. Nous, on ne combat pas. Hein. On est des brebis. On n'a pas d'armes. On n'a pas des kalachnikovs. On n'est pas des guerriers. Mais on a un bon berger qui prend soin de nous et qui nous défend. Amen. Nous, on n'a aucune arme, si ce n'est d'écouter et de rester proche du berger. Parce que le berger va nous défendre. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. J'accélère un petit peu. Donc, le lendemain, au festin de la reine, Esther trouve le courage d'annoncer sa nationalité, d'annoncer qu'elle est juive, puisqu'elle l'avait cachée, et d'annoncer que Aman voulait purement et simplement détruire la race juive. Alors le roi est en colère, et le roi va faire pendre Aman. Le plan diabolique s'est retourné contre lui. Tout simplement... Non pas par l'intelligence d'Esther ou de Mardoché, non pas par des calculs, non pas par toutes sortes de choses humaines, mais tout simplement par le jeûne et par la prière. Amen. Vous avez une situation inextricable, vous avez une situation compliquée dans votre famille, dans votre vie. Passez un temps dans le jeûne et dans la prière. Au lieu de regarder la télé, passez un temps à lire la Bible, passez un temps à écouter des prédications, à écouter des chants. Vous allez voir que Dieu va vous parler et que Dieu même va déjouer les plans diaboliques qui sont sur votre vie. Amen. Troisième cas, c'est Néhémie. C'est le livre qui précède Néhémie chapitre 1er. Néhémie, qui était échanson du roi. Un échanson, c'est celui qui sert le vin au roi. Une grande responsabilité, une grande confiance, puisqu'on pouvait à ce moment-là empoisonner le roi. Donc il goûte aussi, quelquefois avant, le vin. pour s'assurer que le roi n'est pas en danger. Donc, Néhémie a une place de confiance auprès du roi. Il est à Suse, il est déporté lui aussi. Et nous pouvons lire au chapitre 1er et au verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que t'adresse ton serviteur en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. À la fin du verset 11, il est dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Amen. Néhémie apprend que les murailles de Jérusalem sont détruites, que la ville est dans la désolation. Il y a eu un premier retour, un deuxième retour. Il y a eu la reconstruction du temple. Il y a eu un renouveau spirituel en Israël. Mais il manque une chose, c'est que la cité de Dieu n'est pas reconstruite. La ville de Dieu n'est pas reconstruite. La politique de Dieu n'est pas reconstruite. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas dans notre pays. Et de plus en plus, on enlève Christ et on enlève Dieu de notre vie et de notre politique, des valeurs morales. Mais lorsqu'il va entendre ça, il va être dans la désolation et dans le jeûne. Il veut que la cité de Dieu soit reconstruite, les murailles de Dieu soient reconstruites, que la ville entière reprenne naissance. Le temple était là, la nation était là, était revenue, mais il n'y avait pas encore la ville de Jérusalem. Et alors, il cherche la face de Dieu et la première chose qu'il fait, c'est qu'il quand il entend ces choses, je m'assis, je pleure et je fuis plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Lorsqu'il y a un constat moral, un constat de défaite, un constat d'échec, la bonne chose que nous pouvons faire, c'est de jeûner et de prier. Et comme pour Daniel, il va s'approprier le péché du peuple. Il va dire, nous avons péché, nous nous sommes éloignés de Dieu. Et Dieu va répondre. Il sait qu'en faisant cela, Dieu va exaucer. Et il rappelle également les promesses de Dieu. Au verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Dans le jeûne et dans la prière, il rappelle à Dieu les promesses et il les fait siennes. Le destin incroyable de Néhémie va se mettre en place juste après. Il va trouver le courage, comme Esther, de parler au roi. Le roi va dire « Jamais je ne t'ai paru triste en ma présence. » Alors il va lui expliquer « La ville où les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi « Si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Verset 8, il dira, il est écrit « Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. On veut être béni, on veut être rempli de succès, mais prenons-nous le temps de chercher la face de Dieu et chercher la volonté, le plan de Dieu. Néhémie a cherché la face de Dieu et il est resté dans le destin incroyable de Dieu. Il a commencé ce destin à cause de son état d'âme. Et le roi va lui donner ses lettres. Le roi va lui donner du succès. Au verset 12 également. Et au verset 20, pardon. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Le serviteur, le Seigneur, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. L'assurance qu'il a prise, le fait de savoir que Dieu était avec lui et qu'il aurait du succès, il l'a prise dans le jeûne et dans la prière. La dernière fois, nous avons fait un jeûne à Vennes. Et je suis heureux parce que notre sœur est là. Ce n'est pas prévu. On est resté entre midi et deux pour jeûner et pour prier. Et ce matin-là, alors qu'elle devait venir, notre sœur n'est pas venue le matin. On a commencé un petit peu à s'inquiéter, puis certains sont rentrés. Et finalement, alors qu'on était dans la prière, il y a une autre personne qui vient depuis quelque temps à Vennes, qui est venue en pleurs à l'église et nous disant « Voilà, Clotilde a un problème, elle a perdu connaissance. Elle ne nous reconnaît plus, ça ne va pas du tout. » Et nous, on était en prière, on était dans le jeûne. Vous savez, quand on est en prière, on a un revêtement particulier, une autorité particulière. Il n'y a rien qui peut déstabiliser, il n'y a rien qui peut nous inquiéter, il n'y a rien qui peut nous angoisser. Pourquoi ? Parce qu'on est auprès de notre Seigneur Tout-Puissant. On sent qu'on est avec lui, on sent que ce qui est en lui est en nous, et il y a quelque chose, il y a quelque chose de particulier. Alors je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, elle va guérir, c'est sûr, mais avec foi, avec autorité. Et en revenant, on a prié pour notre sœur. Et on disait, et je disais à l'église, je vais y aller, après je vais descendre sur Gap, il y aura la réunion, et après la réunion, j'irai. Et Clotilde aura repris ses esprits. Amen. Moi, je ne suis pas docteur. Et j'ai même dit à ma sœur, elle est là pour en témoigner. Et quand je suis rentré, avant de partir, j'avais téléphoné à une de ses filles et j'avais demandé, est-ce qu'elle a repris connaissance ? Elle m'avait dit non, et elle pleurait au téléphone. J'ai dit, mais t'inquiète pas, elle va reprendre connaissance. Je vais arriver, elle va reprendre connaissance. C'est fou de parler comme ça. Si ça n'arrive pas, on est mal. Hein ? Mais dans le jeûne et dans la prière, ces paroles ne viennent pas de nous. Ces paroles viennent de Dieu. Et lorsque je suis arrivé dans la pièce, Clotilde a dit « Johan ». Elle m'avait reconnu, elle avait repris ses esprits. Et je lui ai même dit « Vous allez, au bout de 3-4 jours, vous allez sortir. » Et c'est ce qui s'est passé. Merci Seigneur, parce que Dieu nous donne de belles choses à vivre dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Je me souviens d'une autre fois également où j'avais décidé secrètement, individuellement, de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Comme par hasard, ce jour-là, c'était un samedi, j'ai eu plusieurs coups de téléphone urgents. Stéphane n'était pas là. Et lorsque j'ai eu ces coups de téléphone urgents et importants, il y avait comme une paix, il y avait comme une assurance dans mon cœur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Vous voulez cette même paix, cette même assurance ? Vous voulez déjouer les plans du diable ? Vous voulez des paroles de vie, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques ? Alors passez du temps en humiliant votre âme, en rejetant le péché et en cherchant la face de Dieu. Tout a commencé à partir d'un jeûne. Néhémie est rentré dans ce destiné incroyable de Dieu. Ces trois personnages ont un point commun. C'est qu'ils vont exercer une véritable influence dans leur société, dans leur vie. Ces trois personnages, Néhémie, Esther et Daniel, étaient tous les trois haut placés de manière politique. Esther était la reine, Daniel était très haut placé également. Et puis Néhémie aussi était près du roi, il était chanson du roi. Ils avaient un poste à influence, un poste à responsabilité. Mais la véritable influence qu'ils ont eue, c'est quand ils ont jeûné et quand ils ont prié. On a tous des postes clés dans nos vies. On est papa, on est maman. On a un poste dans le travail, on a un poste, on a une fonction, peut-être dans l'église. Mais ce n'est pas cette fonction qui va faire qu'on va être influent dans le royaume de Dieu. C'est le temps qu'on va passer auprès de notre Sauveur et notre Seigneur qui va faire que la place où on est va avoir une véritable influence, une influence glorieuse et extraordinaire. Ils étaient près du pouvoir, ils étaient près de l'autorité, mais la véritable influence qu'ils ont pu avoir, ils l'ont puisée et ils l'ont trouvée dans la suprême autorité. Le ciel s'est ouvert pour Daniel, de grandes visions lui ont été révélées. Esther a déjoué les plans diaboliques d'Aman. Néhémie est devenu le moteur du troisième retour des Juifs et la reconstruction des murailles. Quel destin! À notre tour, chers frères et sœurs, d'influencer le monde, d'influencer notre monde. Pas besoin d'influencer tout l'univers, mais pourquoi pas? Si on en paye le prix, je crois que le Seigneur a de grandes choses en réserve pour nous. Par la prière et par le jeûne, de grandes victoires, de grandes révélations et de grands destins nous attendent. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons la serrer sur notre cœur et nous voulons l'appliquer, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce livre, que ces paroles que nous avons entendues ne s'éloignent pas de notre cœur. Que nous, à chaque situation difficile, douloureuse, et au moment où Seigneur, tu mets dans notre cœur le désir de comprendre, le désir de chercher, et de trouver dans ta parole des trésors cachés, Seigneur, que nous puissions passer ce temps particulier, que nous puissions arrêter tout ce qui est futile et vain dans notre vie, pour passer du temps auprès du roi des rois, du Dieu des cieux. Au nom de Jésus, nous avons tellement besoin de toi pour réussir notre vie et pour réussir le plan que tu nous as préparé. Seigneur, je veux, Seigneur, croire que Seigneur, à travers ce message, Seigneur, plusieurs d'entre nous puissent réaliser l'enjeu spirituel et puissent chercher ta face et rentrer peut-être dans leur destin, le destin que tu leur as programmé, que tu as prévu pour eux. Je désire également que certains frères, certaines sœurs puissent se réfugier dans ta présence pour trouver la solution au plan diabolique qu'il y a sur leur vie autour d'eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que encore, Seigneur, il puisse y avoir des révélations, des paroles de connaissance à travers ce temps mis à part pour toi. Je te prie pour cela et je te prie pour ma vie également. Seigneur, que je sois toujours près de toi et que tu sois toujours là pour moi, pour m'instruire, pour me diriger, pour me conduire et combattre pour nous. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.